compagnie des revues et en l'occurrence en compagnie du nouveau magazine littéraire avec vous, Olivier, Alexis Broca, pardon.
Je vous en
prie. Bonjour Alexis.
Bonjour Mathieu, bonjour Pierre.
Pourquoi je vous appelle Olivier ? Vous venez nous parler des GAFA.
Oui, je vais vous parler du GAFA en effet. Les GAFA, vous connaissez peut-être, ce sont ces grandes entreprises issues de la Silicon Valley qui ont émergé avec Internet.
On dit même les GAFAM aujourd'hui.
Alors on dit les GAFAM, il y a divers acronymes selon qu'on y ajoute Amazon, selon qu'on y ajoute diverses jeunes pousses de la Silicon Valley. Voilà, exactement, diverses jeunes pousses de la Silicon Valley. Mais bon, on a choisi l'acronyme le plus simple pour être le plus direct possible. Et voilà, ce sont ces entreprises qui ont émergé de la Silicon Valley avec Internet et qui ont fait, nous disent-elles, de nous des hommes augmentés. À les en croire, Google nous a apporté l'omniscience, Facebook nous a apporté l'ubiquité, Amazon nous a apporté le rêve consumériste d'un magasin infini où tout est accessible très vite de n'importe où. Et ce qui nous intéressait, c'était d'aller voir un petit peu quelle pensée véhiculaient ces entreprises qui cultivent en fait une image juvénile, innocente, dont Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, avec ses t-shirts et ses claquettes, est la vivante allégorie. Et on a donc demandé à plusieurs spécialistes qui sont des observateurs de ce secteur ou qui sont eux-mêmes d'ailleurs issus des GAFA de nous décrire ces pensées. Cette pensée, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça nous laisse songeurs.
Donc c'est une pensée qui n'est pas tout à fait récente, comme on pourrait le croire.
Oui, c'est une pensée qui a des racines anciennes. En effet, lorsqu'on regarde les citations que produisent les patrons de ces grandes entreprises, on remarque qu'ils se réfèrent toujours à une romancière qui est très méconnue chez nous, qui s'appelle Ayn Rand, et qui a en fait développé une pensée qui est férocement individualiste et libertaire.
Une très bonne émission l'été dernier de Xavier Delaporte sur France Culture. Oui, c'est qu'on peut réécouter en podcast.
Il y a une réédition chez Plon d'ailleurs d'un roman d'Ayn Rand, La Source Vive, si je me souviens bien. Et en fait, eux, les patrons des GAFA, ont ajouté à l'individualisme promu par Ayn Rand l'injonction technologique. Ils en ont fait une pensée libertarienne 2.0 en quelque sorte. Et ils ont aussi inventé un modèle économique qui va avec ça. C'est-à-dire que vous savez, lorsque vous consultez Google, vous avez l'impression d'avoir accès à un service gratuit. Vous posez une question à une sorte de répertoire gigantesque qui vous produit les réponses, les meilleures réponses, croyez-vous. En fait, ce sont simplement les réponses qui sont les plus adaptées à vous faire revenir sur Google, très souvent. Et en plus, Google, lorsque vous rentrez une recherche, capte quelque chose de vous. Il capte quelque chose de questions que vous vous posez. Et il crée donc comme ça de grands répertoires de données qu'il commercialise, pour en faire du marketing, voire pour faire des profils politiques. Enfin bon, lorsque vous utilisez ces services-là, vous, n'oubliez pas, le produit, c'est vous. Et cette pensée, elle s'accompagne par ailleurs d'une espèce de saturation de l'imaginaire public par la prophétie et par le spectaculaire. Vous avez par exemple des penseurs qui sont embauchés par Google ou Facebook, quelqu'un comme Raymond Kurzweil par exemple, qui vous annonce régulièrement que la singularité, c'est-à-dire l'ordinateur pensant, adviendra dans 10, 20, 30 ans, qui vous annonce l'immortalité pour 10, 20, 30 ans. Peu importe que les vrais spécialistes qui travaillent sur ces sujets-là vous disent que c'est impossible. Roger Penrose, le mathématicien, a démontré par exemple que la reproduction informatique d'une conscience était impossible. C'est pas grave, ces prophéties servent en fait à occuper le terrain de manière à faire croire aux gens qu'il n'existe qu'un seul avenir possible, qu'un seul grand rêve possible. Voilà.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que la littérature, c'est tout l'objet du nouveau magazine littéraire, que de lier des idées avec la littérature. La littérature, elle nous avait prévenu, Alexis.
Voilà. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde la science-fiction, les romans de science-fiction qui ont été écrits dans les années 50, 60, 70, on y voit notre présent en petits morceaux et on y retrouve notamment ces fameux GAFA, ces algorithmes, leurs algorithmes, leurs flux de données. Par exemple, on vous a récemment parlé de l'ordinateur AlphaGo Zero, qui est devenu un champion du jeu de Go en connaissant juste les règles du jeu de Go. À partir de là, l'ordinateur a émis des milliers de combinaisons qui ont fait de lui le champion du monde du jeu de Go. En 1960, Philippe K. Dick imagine un ordinateur, ça se passe dans un roman qui s'appelle, je me souviens plus, Les Marteaux de Vulcain, voilà. Dans Les Marteaux de Vulcain, Philippe K. Dick invente un ordinateur dans lequel on rentre quelques principes historiques généraux et à partir desquels l'ordinateur déduit tout le futur de l'humanité.
Ça, c'est pratique.
Voilà, ce qui est très pratique. Vous avez aujourd'hui des sites de rencontres qui vous vendent des algorithmes puissants qui vous permettent de vous trouver le partenaire le plus adapté. Le plus benoîtement du monde, René Barjavel, en 68, écrit La Nuit des Temps et raconte l'histoire d'une civilisation disparue qui s'appelle la civilisation de Gondawa, dans laquelle les gens sont appariés, c'est merveilleux, par un ordinateur qui ne se trompe jamais. Un autre exemple que je trouve extrêmement spectaculaire, en 85, il y a un romancier américain qui s'appelle Oscon Scott Card, qui imagine que plus tard, bientôt nous connecterons nos ordinateurs, que le fait de connecter nos ordinateurs nous permettra de parler entre nous, que le fait de nous permettre de parler via ces ordinateurs permettra à des gens qui sont de simples citoyens de devenir des leaders d'opinion. Il imagine tout ça, 10 ans en fait, l'avènement d'Internet, dans un roman qui s'appelle La stratégie Ender. Alors ce qu'il n'imagine pas, en revanche, il imagine que ce sont deux adolescents surdoués qui se font surnommer Locke et Démosthène, qui vont influencer le cours du monde. Il n'imagine pas bien sûr que c'est un trader d'extrême droite comme Steve Bannon et un milliardaire médiatique dont la coiffure est elle-même une prouesse technologique, qui vont devenir des leaders d'opinion grâce à Internet.
Maintenant il faut laisser un petit peu de romanesque dans le roman quand
Exactement,
même.
Exactement, le romanesque là et dans la réalité en quelque sorte.
Merci beaucoup, merci Mathieu. À très bientôt.